ici Anne Boussy-Comenra de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur un changement de comportement que demande le Christ à partir d'un texte de l'Évangile de Luc au chapitre 14, les versets 1 à 14. Texte que je vous lis. Un jour de sabbat, il était venu manger chez l'un des chefs des pharisiens et ceux-ci l'observaient. Un hydropique était devant lui. Jésus demanda aux spécialistes de la loi et aux pharisiens « Est-il permis ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?» Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Il adressa une parabole aux invités parce qu'il remarquait comment ceux-ci choisissaient les premières places. Il leur disait « Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'installer à la première place de peur qu'une personne plus considérée que toi n'ait été invitée et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède-lui la place. » Tu aurais alors la honte d'aller t'installer à la dernière place. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place afin qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, ils te disent « Mon ami, monte plus haut !» Alors ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Il disait aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation, et qu'ainsi tu sois payé de retour. » Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. J'essaie le plus souvent de respecter le découpage proposé dans le lectionnaire commun aux différentes confessions chrétiennes. Pourtant, ici, il me semble à première lecture qu'il y a là-dedans trois choses différentes. Mais si on y regarde mieux, on constate qu'il s'agit en fait de trois histoires autour d'un repas. Je vous rappelle qu'on mange beaucoup et souvent dans la Bible, et que Jésus et ses disciples ne sont pas montrés comme en ascèse permanente, à tel point que certains mauvais esprits les traitent même de goinfres. Le repas dans la Bible, comme ailleurs, est signe de communion. Il s'y établit un lien spécial entre ceux qui y participent. Certains théologiens ont vu dans cette suite de récits un repas inventé par Luc pour évoquer des questions qui agitaient l'Église primitive. Et on a bien en effet ici trois temps. Jésus mange avec ses détracteurs habituels et il en profite pour enseigner, premièrement, le pardon et la guérison, deuxièmement, le savoir-vivre ensemble, et troisièmement, la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Jésus est invité à un repas chez un chef pharisien. Étonnant, non? Luc est le seul des évangélistes à montrer les pharisiens assez favorables à Jésus pour l'inviter à leur table. Il est sur ce point sans doute plus près de la réalité historique que Marc et surtout Matthieu, pour qui les pharisiens sont systématiquement les adversaires de Jésus. Le jugement plus nuancé de Luc peut être dû à l'influence de Paul, qui est toujours resté fier d'avoir été pharisien. Alors, prenons ces trois épisodes l'un après l'autre. Premier épisode, une guérison un jour de sabbat. Tout à fait contraire à la loi établie, n'est-ce pas? Tout le monde observe Jésus, verset 1, de même que lui les observe, au verset 7. Il sait ce qu'ils veulent et qu'ils l'attendent au tournant. Pour ces pharisiens, la loi qu'ils se targuent de suivre parfaitement est l'expression de la volonté divine, et tout juif se doit de la vivre à la lettre, sous peine de mort, comme le dit le texte d'Exode 31 au verset 14, « Vous observerez le sabbat car il est sacré pour vous. Celui qui le profanera sera mis à mort. Quiconque travaillera ce jour-là sera retranché du sein de son peuple. » Tout ouvrage, action ou intervention est de l'ordre du travail et est donc interdit. Or Jésus prend des libertés bien qu'il se sache observer, et il pose clairement la grande question qui devrait lancer le débat, est-il permis, oui ou non, de guérir un malade le jour du sabbat? En fait, la loi permet de soigner un malade le jour du sabbat, mais seulement si sa vie est en jeu. C'est ce qui est appliqué à l'époque de Jésus, mais ce n'est pas le cas proposé ici. L'hydropique présent au repas vit avec sa maladie depuis longtemps sans doute. Il n'y a pas d'urgence à le guérir, il peut très bien attendre le lendemain, et il est étrange que les pharisiens n'interviennent pas dans ce sens. Alors Jésus retourne la situation, sans invoquer ni le texte biblique dans lequel le commandement du Shabbat est vraiment le signe de la fidélité à Dieu, ni l'enseignement des rabbins. Il dit « Vous feriez quoi à ma place ?» Et cette question qu'il aurait posée les implique personnellement et chacun. À la fois gêné et de mauvaise foi, pas un n'ose prendre la parole et l'accuser. Son comportement et son raisonnement sont d'une telle logique, une logique nouvelle par rapport à la loi, certes, mais une logique entièrement tournée vers l'homme et vers l'application plus souple, plus humaine, moins stricte et sèche de la loi. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, rappelez-vous. Dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale et au-delà, qu'est-il permis ou pas de faire pour que tous ces domaines témoignent que nous sommes à Dieu? Obéir aux commandements, mettre en pratique ce qui est écrit devrait être une bonne réponse. Ne croyez pas que ce soit une réponse protestante, malgré les apparences. Car qu'est-ce qui est vraiment écrit et que veut vraiment dire ce qui est écrit? Si on relit le Lévitique et les Nombres, faire ce qui est écrit, ça ferait beaucoup de morts, non? Par exemple, il est écrit qu'on devrait lapider tous ceux qui portent des vêtements faits de deux types de matière. Et j'en passe. Pour les pharisiens, la bonne interprétation du commandement, c'est celle qui vient des anciens, celle dont on nous a toujours dit que c'était comme ça, réponse désespérante qui fait comme si rien ne changeait jamais, comme si ce qui était valable hier devait l'être pour toujours. Mais alors, si ni la Bible ni la tradition ne sont des autorités absolues pour savoir quoi faire, qui ou quoi le sera? Dans notre texte, il y a le mutisme des spécialistes de la Bible et des héritiers de la tradition, et puis il y a Jésus et un malade, et cette logique nouvelle. Logique que l'on peut rapprocher du texte de l'Épître aux Galates proposé en même temps par le lectionnaire, et que je vous lis. Galates chapitre 3, versets 15 à 29. Mes frères, je parle en termes humains. Quand un homme a fait son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'abolir ni y faire une adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » au pluriel, comme s'il s'agissait de beaucoup, mais il s'agit d'un seul et à ta descendance, qui est le Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà fait en bonne et due forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui réduirait à rien la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et au moyen d'un médiateur. Or, ce médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Jamais de la vie. Si une loi avait été donnée qui puisse faire vivre, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché pour que la promesse soit donnée en vertu de la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés, en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à un surveillant, car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. J'insiste particulièrement sur ces derniers versets, le 21 puis 24 à 26. Fils de Dieu, donc héritier de la grâce, au lieu de rester entièrement soumis à la loi. Et maintenant le deuxième épisode. Apparemment, cette parabole énonce simplement des règles de bonne conduite. En réalité, le discours de Jésus fait déjà référence au royaume de Dieu et au fait qu'il invite à un renversement des priorités connues et habituelles. Au cours du repas, Jésus remarque que les convives choisissent les meilleures places. Ces hommes pieux, qui se nomment les séparés, c'est le sens du terme pharisien, obéissent pourtant aux habitudes de ce monde. Ils sont possédés comme tous les autres par la convoitise de la première place. Le conseil qu'il donne peut nous surprendre et nous étonner. Être un loup parmi les loups, mais sans en avoir l'air. À ces hommes qui ont soif d'honneur, Jésus semble recommander une fausse humilité, une sorte de tactique, de calcul astucieux pour être sûr non seulement d'avoir la première place, au final, mais de l'avoir avec beaucoup d'honneur et de satisfaire ainsi sa vanité. En effet, quelle est cette combine que de faire semblant de choisir la dernière place pour être assuré d'être d'abord remarqué pour cette modestie apparente et surtout de se retrouver à une place plus conforme à son rang ou à ses capacités? Cela ressemble bien à de l'hypocrisie et me rappelle un copain qui expliquait que se servir en dernier apparaissait non seulement comme bienséant, mais permettait aussi d'avoir la plus grosse part en comptant sur le fait que les autres étant bien élevés n'oseraient pas prendre la part en question, laquelle restait donc le lot du dernier servi. Pour les pharisiens, le maître de la maison et ses invités, L'histoire racontée par Jésus voulait dire en réalité, rappelez-vous que Luc appelle cela une parabole, nous ne sommes pas dans un manuel de savoir-vivre, mais nous sommes dans une sorte de catéchèse. Donc cette histoire voulait dire en réalité, ne pensez pas dans votre orgueil de gens religieux parvenus à un certain degré de perfection que chacun de vous est à part et qu'il doit donc être bien placé. Vous êtes certes invité, mais pensez que dans l'assistance, il y a probablement des gens plus honorables et plus excellents que vous. Quand vous entrez dans la salle, ne vous précipitez pas pour avoir une bonne place. Placez-vous non par orgueil, mais au contraire par humilité et par respect pour les autres. Prenez le temps de regarder les autres, de les saluer. Prenez un peu de recul pour observer quel est le rang de tel ou tel. Et pour avoir du recul, il vaut mieux être au fond de la salle, à la dernière place. Si vous faites attention à vos frères, vous avez des chances pour qu'on fasse aussi attention à vous et on sera attentif à votre bien-être. Ce qui compte, c'est que chacun soit reconnu à sa vraie place. C'est cela que le Christ a voulu dire quand il a donné ce conseil à ses auditeurs il y a 20 siècles. Ce récit peut aussi nous parler. Il nous rappelle à nous qui voulons être aujourd'hui des disciples que dans l'Église et dans le monde, il s'agit de ne pas penser seulement à soi, mais aussi aux autres, de tenir compte des autres. La folle poursuite de la gloire n'est pas seulement condamnée par la bonne conduite et la morale, elle trahit un désordre dans nos relations avec les autres et aussi avec Dieu. On est prévenu que dans le royaume, toutes les conventions seront remises à plat. Bien sûr, de nos jours, nous ne sommes pas esclaves d'un protocole rigide. Nous vivons tranquillement là où Dieu et la vie nous ont placés. Mais on peut aussi remarquer qu'en fait, dans notre réalité quotidienne, nous n'agissons pas forcément selon la morale tellement évidente de cette histoire très connue. Nous nous ruons toujours, d'une manière ou d'une autre, sur les premières places. Et si nous n'y sommes pas remarqués, si les premières places n'étaient pas celles que nous pensions, alors nous sommes offusqués de ce que notre valeur n'est pas reconnue. Pensons par exemple à la difficulté de faire son trou, comme on dit familièrement, quand on arrive dans un lieu peu connu, dans une nouvelle équipe de travail, dans un groupe déjà constitué, dans une paroisse. Il n'est jamais facile de s'intégrer, car tout groupe humain déjà constitué a tendance à rejeter le nouveau venu, surtout s'il s'impose avec ce que le groupe prend pour de l'arrogance. Par contre, si on va vers les autres avec discrétion, si on sait écouter, on se fait finalement accepter sans problème, en trouvant sa place tout naturellement. Peut-être que ce conseil de Jésus pourra nous aider à mieux vivre en ces occasions où chacun trop souvent cherche à se faire une place, même aux dépens et au mépris des autres. Le Christ, lui non plus, ne s'impose pas. Il ne se révèle que dans la foi, c'est-à-dire dans une relation personnelle. Et avec lui, comme nous le rappelle l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et j'ajouterai, il n'y a plus ni premier ni dernier. Puisqu'il y a un banquet, il y a donc des invités et un invitant. Il y aura donc une parole pour chaque côté, autant dire pour nous dans l'une ou l'autre circonstance. Pour finir, voici donc le troisième épisode. Après la leçon de bienséance, la leçon de bienfaisance. Il est question de générosité, pas celle qui revient finalement à s'occuper de soi et à se faire plaisir, mais celle faite pour aimer. Aimer en montrant de l'attention pour ceux qui sont en marge, comme l'étranger, comme les victimes de toute forme d'injustice. Et de nos jours, on peut penser entre autres à l'injustice climatique et à l'insécurité alimentaire. En montrant de l'intention pour, en somme, les infréquentables. Ce qui est étrange, c'est que Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas oublier d'inviter aussi les pauvres et les exclus, mais qu'il ne faut inviter qu'eux, au détriment de nos amis, en tout cas des gens de notre milieu, qu'il faut éviter absolument de risquer d'être récompensé en retour de ce que nous faisons. Voilà quelque chose de presque scandaleux, en tout cas de terriblement nouveau et dérangeant, et pas si facile à mettre en œuvre. Mais c'est l'étrange morale qui court à travers les évangiles et qui n'a rien à faire des conventions sociales. Donne à celui qui ne peut pas te rendre. On est un homme de ce monde tant que l'affection que l'on porte et ou que l'on montre dépend des qualités que l'autre possède à nos yeux ou de la récompense, voire de l'enrichissement qu'on attend de lui. On est un homme du royaume de Dieu quand on cesse de faire ces calculs de réciprocité qui commandent tant de relations mondaines. Alors finalement, que nous enseigne le Christ ici dans ces trois récits autour d'un repas? Que nous dit ce morceau d'évangile pour nos vies d'aujourd'hui? Le texte nous exhorte à ne pas nous laisser enfermer dans des idolâtries, à ne pas déifier en somme la morale et les bonnes manières. Il s'agit au contraire de prendre dans tous les cas Jésus pour exemple, d'aimer comme il a aimé, c'est-à-dire de tenir compte des autres autant que de soi, et peu importe ce que le monde en pense. On retrouve ici sous différentes formes la loi par excellence, celle que Jésus nous laisse en héritage, « Aime ton prochain comme toi-même ». Cette parole reçue non de la loi traditionnelle mais de Jésus, si elle change ma vie, me rend alors capable de vraie liberté, de choix personnels, de responsabilités assumées. C'est moins calme et sans doute moins simple que de suivre servilement la règle, mais c'est beaucoup plus intéressant. Amen. Je vous propose de prier. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, quand mensonges et demi-vérités brouillent toutes les pistes, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudain s'embrasent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus, nous te louons pour ta parole sainte, crédible, fiable. Et avec Simon Pierre, nous confessons, ô Christ, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Amen. Cette prière est extraite du livre de Lita Basset, Traces vives.